Bonjour à tous. Merci à Cécile et à Agnès de m'avoir invité à partager avec vous ce cas de prise en charge transfusionnelle d'une anémie fœtale sévère dans un contexte d'allo-immunisation anti-JR1 et d'infection à parvovirus B19. C'est un dossier qui a nécessité un travail en concertation de plusieurs équipes, l'équipe de la maternité du CH de la Côte Basque à Bayonne, la maternité également du CHU de Pellegrin, ainsi que le centre de médecine fœtale des Dianes, le CNRHP, le CNRGS et l'EFS Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux et de Bayonne, dont je fais partie. Donc, il s'agit de l'histoire d'une jeune femme de 23 ans qui commence en février 2024 sa deuxième grossesse. C'est une jeune femme caucasienne d'origine gitane qui n'a jamais été transfusée, mais qui est connue pour avoir développé au cours du cinquième mois de sa première grossesse un anticorps anti-JR1 et un anticorps anti-HI. C'est un anticorps qui a nécessité d'être suivi au CNRHP et qui a nécessité également un suivi échographique hebdomadaire de la patiente. C'est une histoire qui se finit bien puisqu'elle a accouché en janvier 2021 d'un petit garçon qui avait 12 grammes d'hémoglobine, mais qui n'a pas eu besoin de transfusion et qui a été supplémenté par EPO. Donc, cette jeune femme présente un phénotype rare, puisque donc elle est de groupe A, négatif, quel négatif, et JR-1. Donc, l'absence de cet antigène JR1 fait qu'elle est de phénotype rare, public négatif, puisque est absent un antigène de haute fréquence dans la population. Elle est donc inscrite au registre national des patients de phénotype et génotype rare. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système de groupe sanguin JR pour junior? Il ne présente qu'un seul antigène qui est appelé JR1 dans la nomenclature ISBT et JRA en nomenclature standard. C'est un antigène qui est porté par un transporteur de la famille des ATP binding cassettes, qui est aussi appelé CD338 et qui permet la détoxification cellulaire. Cet antigène est porté par les hématies, bien sûr, les précurseurs érythroïdes, les cellules souches hématopoïétiques et présent dans de nombreux tissus, dont le placenta. C'est un antigène donc qui est de haute fréquence dans la population et quand il est absent, on parle de phénotype JR-1, qui est exceptionnel dans la population caucasienne, mais qui est assez observé en Asie, notamment au Japon, et pour lequel on rencontre quelques cas, notamment dans les populations d'Europe de la communauté gitane. En ce qui concerne l'anticorps anti-JR1, son impact dans la grossesse est assez variable parce qu'il va dépendre du niveau d'expression de l'antigène, qui est variable d'un individu à l'autre et qui est plus fortement exprimé chez le fœtus que chez l'adulte. Va dépendre également aussi de la concentration de cet anticorps. À de fortes concentrations, il va être toxique parce qu'il va inhiber l'érythropoïèse. Et il va dépendre du stade de la grossesse, puisque sa toxicité est plutôt observée à partir de 24 semaines d'aménorrhée. D'un point de vue analytique, cet anticorps anti-JR1 génère une pan-agglutination sur les panels d'identification de RAI en TIA, avec un témoin autologue négatif. C'est un anticorps qui a un comportement de type HTLA pour high titer low avidity. Donc ça veut dire ce sont des anticorps qui ont des titres élevés, mais qui sont difficilement absorbables, ce qui fait qu'ils peuvent masquer d'autres allo-anticorps. Et c'est pourquoi il est intéressant d'avoir le phénotype du procréateur afin de savoir quels sont les risques surajoutés d'allo-immunisation. Dans le cas de notre patiente, le conjoint est RH1 et JK2, donc ce sont ces spécificités que l'on va rechercher. Bien sûr, l'aide du CNRGS dans l'exploration de telles allo-immunisations est indispensable, et il faut savoir qu'à la BNSPR, il y a très peu de donneurs qui soient JR-1. Donc, quelle est la prise en charge de notre patiente en ce début de grossesse? Comme elle est connue pour avoir un anti-JR1, elle bénéficie d'un bilan très précoce dans sa grossesse, à 4 semaines d'aménorrhée, qui est exploré par le CNRGS et qui permet de retrouver l'anti-JR1 qu'on avait laissé à la fin de la grossesse précédente. Et il est possible d'exclure l'anti-JK2 que l'on redoutait issu du papa. Elle bénéficie d'un suivi hebdomadaire, échographique, morphologique et pour le suivi de la vélocimétrie. Et ce suivi échographique se fera en partenariat également avec le CHU de Bordeaux. Elle a une RAI mensuelle qui devient hebdomadaire à compter de 16 semaines d'aménorrhée. Ces prélèvements vont être essentiels pour le suivi du titre de l'anticorps et en fin de grossesse permettront de contrôler l'identité, de faire des allos adsorption et de vérifier que derrière cet anticorps anti-JR1 ne se cachent pas d'autres allos anticorps dangereux. Au cours de la grossesse, la patiente bénéficiera de cures de PO et de supplémentation en fer IG pour maintenir une hémoglobine supérieure à 10 g par décilitre. En plus, cette patiente est de phénotype RH-1, donc elle va nécessiter aussi une prévention par Rofilac. Elle va recevoir 2 injections à 18 et 30 semaines d'aménorrhée. Malheureusement, sa fratrie n'est pas compatible, donc il n'y a pas de donneur dans sa famille et il n'y a pas non plus de donneur éligible au niveau national. Donc il est convenu qu'en cas de besoin transfusionnel en urgence vitale immédiate, cette patiente sera transfusée en CGR phénotypée étendue incompatible et elle sera associée à un protocole par corticoïde. Donc le début de son suivi de grossesse commence avec sa première échographie du premier trimestre à 12 semaines d'aménorrhée. À ce stade, les anticorps anti-JRA sont de titre et de concentration élevée, mais comparables à ce qui avait été obtenu à la fin de la grossesse précédente. Parce qu'à chaque fois, le CNRHP étudie le prélèvement qu'on lui envoie et reprend en sérotech le prélèvement d'avant. Donc on sait que c'est comparable. Et son hémoglobine à cette date est à 12 grammes. Et puis se poursuit le suivi échographique et à 16 semaines d'aménorrhée apparaît déjà une petite cardiomégalie qui motive l'envoi de la patiente à Bordeaux pour un contrôle échographique. L'anticorps anti-JRA se maintient sévère mais au même niveau que le précédent prélèvement. L'hémoglobine de la patiente est à 10,1 g par décilitre. Et donc, dans ce contexte de vélocimétrie accélérée, il est décidé d'organiser une transfusion in utero. Le problème, c'est qu'on n'a pas de donneur mobilisable au niveau national. Il n'y a pas de décongélation prévue dans ce cas à la BNSPR. Donc, c'est l'EFS de Bordeaux, Laure Levoir et Audrey Dedonné, qui organisent un premier don. Un don dérogatoire dirigé intrafamilial, qui est donc un don de la maman pour son bébé à 16 semaines d'aménorrhée plus 2. Vous doutez bien que cette patiente n'est pas du tout éligible au don classique sanguin, puisqu'elle est enceinte, qu'elle est anémiée, qu'elle a une RAI positive, et qu'en plus on ne va pas pouvoir lui prélever ce qu'il est communément accepté de faire dans un cas du don de sang. Donc, beaucoup de dérogations pour pouvoir prélever cette maman, pour pouvoir qualifier le don. Et donc une fois que ce prélèvement sera réalisé, il va falloir également le transformer pour qu'il puisse être utilisable pour le bébé. Donc à partir de ce don, on fera 2 unités pédiatriques qui ont une péremption à 35 jours et extemporanément, au moment de la transfusion, ils seront réduits de volume et irradiés pour pouvoir être transfusés au bébé. Donc le don a lieu à 16 semaines plus 2. Et la TIU est réalisée alors que la vélocimétrie est à 2,3. On transfuse 6 ml qui permettent de remonter l'hémoglobine du fœtus de 4,6 à 12,9. Le bilan qui est réalisé au cours de cette transfusion montre une virémie positive chez la maman à parvovirus B19 et on retrouve également le virus dans le liquide amniotique. En effet, ces examens ont été générés parce que la précocité de la TIU dans ce suivi de grossesse était assez inattendue. Et donc, cette découverte a généré la reprise des prélèvements antérieurs qui étaient disponibles au CH de la Côte Basque. Donc, ce sont des prélèvements sanguins et on a pu faire la recherche de sérologique pour la maman, donc qui était négative à 12 semaines d'aménorrhée. Et on retrouvait une sérologie positive à IgM, ensuite à 16 semaines d'aménorrhée. Et quand on interroge la patiente, elle raconte qu'elle était en contact avec ses petits-neveux quelques semaines auparavant, qui étaient atteints de la 5e maladie, et que son fils aîné avait lui-même une éruption cutanée sur les joues 4 jours avant. Donc ce parvovirus B19, qui est responsable de la 5e maladie, maintenant vous le savez, c'est un virus ubiquitaire, endémique, qui est responsable d'épidémies, qui se transmet par voie aérienne, mais également materno-fétale, qui est responsable, en général, qui donne en général une maladie bénigne, mais qui a un tropisme pour les précurseurs érythroïdes, ce qui le rend beaucoup plus dangereux pour des patients en déficit immunitaire ou anémiés, et également chez la femme enceinte, puisque 50% des femmes en âge de procréer ne sont pas immunisées vis-à-vis de ce virus, et que si la primo-infection a lieu pendant la grossesse, dans un tiers des cas, le virus passe de la maman à son bébé, provoquant des anémies fœtales. Et donc malheureusement, dans le suivi échographique de la maman, eh bien, 3 semaines après la première TIU, à nouveau des signes échographiques d'anémie avec une Vmax à 1,8. Et donc on se voit contraint d'utiliser la deuxième unité pédiatrique qui avait été préparée à l'issue du premier don et qui permet de faire passer l'hémoglobine fœtale de 5,1 à 11,6. À cette date, les anticorps anti-JRA se maintiennent à un titre élevé, mais stable par rapport au prélèvement précédent. Et la virémie chez la maman et chez le fœtus est toujours positive. Et on peut déterminer le groupe du bébé, qui est de groupe A, et il présente un test direct à l'antiglobuline positif en IgG. Le suivi de la patiente se poursuit à 21 et 23 semaines d'aménorrhée comme prévu, avec un titre stable et élevé de l'anticorps. Et puis survient à 25 semaines à nouveau des signes d'anémie fœtale avec une Vmax qui est augmentée. Il est donc nécessaire d'organiser un deuxième prélèvement de la maman, un prélèvement toujours dérogatoire puisque aux contre-indications théoriques qu'il a fallu lever du premier don, il faut ajouter que maintenant il y a une virémie positive à parvovirus B19. Qu'il y a, en plus, la maman est sous antibiothérapie puisqu'elle a eu un problème dentaire qui le nécessite et elle a une hyperleucocytose. Donc le prélèvement est réalisé, il subit les mêmes transformations que le premier, à savoir que le don est divisé en unités pédiatriques et au moment où on en a besoin, il est réduit de volume et irradié. Et donc a lieu une troisième transfusion in utero à 25 semaines d'aménorrhée où 40 ml sont transfusés, permettant de remonter l'hémoglobine fœtale à 14,9 g par décilitre. La virémie est toujours positive chez la maman et chez le bébé. Le TDC du bébé est positif en IgG et l'élution permet de retrouver l'antidépassif qu'elle a reçu quelques semaines plus tôt vers 18 SA. Le suivi se poursuit, le titre est stable, le titre de l'anticorps anti-GRA se maintient stable sur ces semaines et rien à signaler au niveau échographique jusqu'à 30 semaines d'aménorrhée, où là il est trop tard pour utiliser la deuxième unité pédiatrique qui avait été préparée sur le don numéro 2, et donc il faut à nouveau prélever la maman, à nouveau un don dérogatoire, à nouveau les mêmes transformations pour pouvoir réaliser une quatrième TIU avec 120 ml qui vont être transfusés pour maintenir une hémoglobine fœtale à 14,9. La virémie est toujours positive, mais diminue chez la maman et chez le bébé. Le TDC, cette fois chez le fœtus, est négatif, mais la RAI est panagglutinée. À 32 semaines d'aménorrhée, il est convenu de réaliser une réunion de concertation pluridisciplinaire pour envisager l'issue de cette grossesse. Le titre à cette date de l'anticorps est toujours stable. Donc cette réunion associe la maternité du CH de la Côte Basque, le CNRHP, le CNRGS, l'EFS de Bordeaux-Pellegrin et de Bayonne. Et l'état des lieux est que le déclenchement de l'accouchement est prévu à 34 semaines d'aménorrhée plus 2 par voie basse à Bayonne, puisque la patiente souhaite accoucher à Bayonne, que la croissance fœtale s'est maintenue pendant tout le suivi échographique, que l'IRM cérébral réalisé la même semaine est normal. Et donc, la patiente est prévue pour avoir une deuxième cure de PO et une troisième supplémentation en fer IV. Durant cette réunion est étudiée la faisabilité d'une cinquième TIU qui est possible jusqu'à 35 semaines d'aménorrhée, afin de reculer un accouchement à 36 ou 37 semaines et de limiter le risque d'anémie néonatale. Mais quel produit utiliser pour cette cinquième TIU ? Pas la maman, non, elle a besoin d'énergie pour l'accouchement. Donc plutôt d'utiliser un CGR congelé, enfin qui serait décongelé de la BNSPR, qui serait de phénotype RH-1, JR-1, qui pourrait peut-être être moins efficace, mais qui permettrait de préserver pour le bébé le seul donneur sur pied que l'on a, qui entre-temps a vu sa contre-indication levée et qui permettrait de disposer à la naissance d'un produit pour le bébé et éventuellement, s'il n'est pas utilisé, d'être congelé à la BNSPR. Pour la maman, on maintient le protocole qui était prévu, c'est-à-dire transfusion en incompatible si on a besoin de sang en urgence vitale immédiate, puis éventuellement en postpartum, envisager la décongélation d'un CGR à la BNSPR. Donc c'est ce qui est réalisé. Décongélation d'un CGR de la BNSPR de phénotype A négatif, KEL négatif, JR-1, qui est irradié et compatibilisé avec le sang de la maman, avec le plasma de la maman. Et on réalise donc une cinquième TIU qui transfuse donc 110 ml afin d'arriver à une hémoglobine du fœtus à 14,7 g par décilitre. La virémie du bébé est ininterprétable sur ce prélèvement, mais reste encore faible mais positive chez la maman. Et le fœtus présente un TDC positif en IgG et C3D. À cette date, la maman bénéficie aussi d'un dernier bilan au CNRGS pour faire le point de son allo-immunisation à anticorps anti-JR1. L'exploration retrouve bien sûr cet anticorps et l'antidépassif dont avait bénéficié la maman. Et puis le CNRGS nous propose de réaliser un prélèvement qui va être transféré à Berne, en Suisse, afin de réaliser un test in vitro de monocyte monohélieur SC, qui est un test fonctionnel qui permet d'évaluer la pertinence clinique des anticorps anti-JRA de la maman. C'est une exploration qui se fait dans un contexte transfusionnel, ce n'est pas un test qui a une valeur obstétricale. Donc brièvement, on met en contact avec le plasma de la maman qui contient les anticorps anti-JRA, des hématies O négatives, KEL négatives, LJR1, on les incube. Les hématies sont opsonisées avec l'anticorps présent dans le plasma de la maman. Et par ailleurs, on isole des monocytes humains frais que l'on fait adhérer sur une lame de plastique. Puis ensuite, on met en contact les hématies opsonisées sur la lame où sont les monocytes, et on évalue l'adhésion et ou la phagocytose des hématies par les monocytes après coloration et lecture au microscope. Et donc ce résultat donne un résultat de moins de 3% de monocytes réactifs, ce qui fait dire que l'anticorps anti-JR1 de la maman est cliniquement non significatif. Ça veut dire que si on l'a transfusé avec des unités de sang JR1, comme il avait été envisagé de le faire s'il en avait besoin, très, très probablement il n'y aurait pas de risque immédiat d'hémolyse, ce qui est assez rassurant dans un contexte d'accouchement imminent. Et donc... à l'approche de cet accouchement qui est décidé à 36 semaines d'aménorrhée, est prélevé donc le donneur sur pied qui est depuis disponible. Et ensuite, l'accouchement est réalisé à 36 semaines d'aménorrhée avec un titre en anticorps anti-JRA qui s'est maintenu finalement complètement élevé mais stable pendant toute la grossesse. Et donc la maman accouche par césarienne parce que malheureusement le déclenchement n'a pas fonctionné. Les saignements observés au cours de cet accouchement sont totalement physiologiques et elle accouche d'un petit garçon de 2,9 kg qui a une hémoglobine à la naissance de 14,3 g par décilitre, une bilirubine libre à 50 micromolaires et une RAI attendue pan-agglutinée avec un TDC positif en IgG, mais l'élution ne retrouve que l'antidépassif de la maman. Et le groupage sanguin présente des doubles populations vu qu'il a été transfusé pendant la grossesse, mais on sait qu'il est de groupe A. L'ictère est traité par photothérapie intensive continue de J0 à J1 avec une décroissance progressive et une dernière séance à J3. Et il bénéficie également de cures hebdomadaires de PO pendant 6 semaines. Donc je suis ravie de vous dire qu'aucun des deux n'a eu besoin d'être transfusé à l'accouchement, et que même on a pu congeler le CGR qui était issu du donneur qui avait été prélevé juste avant l'accouchement, et qu'à l'heure où je vous parle, la maman et le bébé vont très bien. Je vous remercie.